rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Juliette Rangeval.
Bienvenue au Carrefour de l'Europe pour parler de la menace de conflit qui pèse aujourd'hui aux portes de l'Union européenne, la crise entre l'Ukraine et la Russie qui fait ressurgir le spectre de la guerre en Europe. Une émission en partenariat avec Le Grand Continent, la revue éditée par le groupe d'études géopolitiques en plusieurs langues, une revue qui fait vivre le débat européen. C'est son directeur Gilles Gressani qui est en notre compagnie dans ce studio. Et nous accueillons deux invités aujourd'hui, Jean-Marie Guéhenneau, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Vous êtes aujourd'hui professeur à l'Université Columbia de New York et vous êtes l'auteur du premier 21e siècle de la globalisation à l'émiettement du monde. C'est paru chez Flammarion. Et en ligne avec nous également, l'ambassadeur de France, Pierre Vimon, représentant spécial d'Emmanuel Macron pour la Russie, expert au centre de réflexion Carnegie Europe. Vous étiez il y a peu en Russie, vous avez préparé la rencontre d'Emmanuel Macron avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Bonjour à tous. Pierre Vimon, le président français s'est donc rendu à Moscou, puis à Kiev et enfin à Berlin en début de semaine où il a vu le chancelier allemand et le président polonais. Est-ce que le dialogue, le rapport de force diplomatique est bien établi aujourd'hui entre les Européens et la Russie? Les commentateurs ont l'air de rester un peu sur leur faim.
Bonjour et d'abord merci de m'avoir invité. Oui, les commentateurs sont toujours un petit peu, restent toujours un petit peu sur leur faim parce qu'ils auraient voulu avoir des résultats spectaculaires et que tout d'un coup la tension baisse, les troupes russes se retirent la paix revenue à la frontière entre l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie. Ce n'est pas comme ça que cela se passe et on le sait bien pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu à traiter des questions de négociations diplomatiques. Et Jean-Marie Guéhenneau, ici présent et que je salue, je pense, ne me contredira pas sur ce point. La diplomatie, c'est toujours une affaire de longue haleine et il faut établir les bases de ce qui peut devenir une discussion, un dialogue, puis ensuite des négociations beaucoup plus serrées. Et il faut trouver le point de départ de ce processus de dialogue diplomatique. Et il me semble que c'est ce que le président est allé chercher à Moscou, puis à Kiev et a terminé à Berlin. Et que de ce point de vue-là, on peut espérer que peut-être quelque chose va s'amorcer. Il faut rester extrêmement prudent, bien évidemment. Je crois que cette rencontre a été utile. Pour le moment, il faut simplement voir si on peut aller plus loin. L'autre aspect que je trouve intéressant dans ces rencontres successives du président de la République, c'est qu'il a remis l'Union européenne dans le jeu. On a beaucoup dit, parfois un peu de manière excessive à mon avis, que l'Europe était totalement marginalisée, que tout se passait au-dessus de sa tête. Avec la présence d'Emmanuel Macron à Moscou, puis à Kiev, puis à Berlin, les contacts qu'il a eus aussi avec son homologue allemand, avec le président polonais, tous les conversations téléphoniques qu'il a pu avoir, il me semble que l'Europe a retrouvé de la voix, peut faire entendre son point de vue et que c'est un aspect très important de ce travail diplomatique qui a été lancé avec ses visites.
Jean-Marie Guéhenneau, on a dit, Josep Borrell par exemple, le monsieur diplomatie de l'Union européenne, que l'Europe vivait le moment le plus dangereux pour la paix depuis la fin de la guerre froide. C'est peut-être pour ça qu'elle revient aujourd'hui au centre du jeu, comme le dit Pierre Vimon. Vous avez l'impression qu'on est en train de vivre un moment particulièrement dangereux aujourd'hui ?
Oui, je pense que c'est un moment très dangereux, parce que c'est un moment où, quand il y a 130 000 troupes massées près d'un pays européen, on peut s'inquiéter à juste titre de ce qui peut se produire avec ces troupes. Je crois aussi que la vision qu'a développée le président Poutine est très différente de la vision européenne. Et il y a une sorte d'incompatibilité là. Et c'est pour ça que la diplomatie, comme le disait Pierre Vimon, est si importante, parce qu'il faut voir entre deux visions profondément incompatibles comment néanmoins trouver un mode de coexistence, comment vivre sans être d'accord. Ça s'est passé pendant la guerre froide, on doit pouvoir y arriver aujourd'hui où on n'a pas la même opposition idéologique.
Est-ce qu'on a trouvé ce point de départ justement pour essayer de concilier ces deux visions si divergentes?
Il y a plusieurs points de départ possibles. Il y en a un où la France a une légitimité particulière, qui est le processus dit Normandie, puisqu'elle est un des quatre pays qui font partie de ce groupe et qui touche spécifiquement au statut des provinces actuellement occupées à l'est de l'Ukraine. Et puis, il y a des questions qui sont plus pan-européennes, je dirais. Il y a la question des mesures de confiance, de la limitation des déploiements de troupes, il y a la question des alliances. Ça, ce sont des questions qui touchent à l'Ukraine et qui touchent à l'Europe tout entière. Et donc, on voit bien qu'il y a plusieurs points d'approche. Et puis, il y a la question aussi des armes nucléaires, qui a été d'abord une question bilatérale américano-russe avec les armes nucléaires de portée intermédiaire. Donc, on voit bien qu'il y a toute une série de questions qui sont ouvertes avec la Russie. Et il est important, comme le disait Pierre Vimont, de voir avec le président Poutine quel est l'angle qui permettra d'avancer et de commencer une désescalade.
Mais cette crise semble signer le réveil des Européens. C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
L'Europe a été pendant des siècles le continent des affrontements, des déchirements, des massacres, des conquêtes, des pogroms et des persécutions, jusqu'à l'horreur absolue des deux guerres mondiales. La construction européenne nous a apporté une paix tellement précieuse que toute référence guerrière est insupportable, ou d'une époque révolue.
Malbrook est mort en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine. Malbrook est mort en guerre, est mort et enterré.
La guerre, c'est mal, d'accord. Mais une fois qu'on a posé ce constat, on fait quoi? Quand la guerre devient-elle un mal nécessaire? La célèbre intervention de Dominique de Villepin aux Nations Unies, en 2003, n'est qu'une réflexion autour de cette question. L'ancien ministre des Affaires étrangères français s'oppose à une intervention militaire en Irak, pas parce que c'est mal, mais parce qu'elle compliquerait davantage la situation.
L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. Mais n'oublions pas qu'après avoir gagné la guerre, il faut construire la paix.
La guerre quand toute autre solution a échoué, la guerre en ultime recours, mais la guerre quand même.
Civis pacem parabellum. Qui veut la paix prépare la guerre.
Pourtant, c'est une option que les Européens ne sont plus prêts à regarder en face. Est-ce la conséquence de la fin du service militaire obligatoire dans de nombreux pays? Autour des années 2000, la France, l'Espagne, la Slovénie, l'Italie, la Pologne, tous ont mis fin à la conscription. La guerre est désormais une affaire de professionnels. Elle a aussi changé de nature. Ce ne sont plus des nations contre d'autres. Et la bombe nucléaire a révolutionné la façon de penser.
Monsieur le Président, les moyens techniques requis sont largement à la portée de n'importe quelle puissance nucléaire, même de la plus petite. Il suffit qu'elle ait la volonté de le faire.
Surtout, la guerre est loin, au Moyen-Orient, en Afrique, pas chez nous. On en arrive à ce paradoxe d'avoir des armées engagées dans des guerres, dans plusieurs conflits, sans que l'on ne se représente nous-mêmes en guerre. Comme si la fin de la guerre froide avait ancré en nous l'idée folle que l'Europe serait en paix pour toujours. Depuis quelques mois, le regroupement d'hommes et de matériel militaire russe à la frontière ukrainienne vient ébranler cette conviction. Certains civils ukrainiens se préparent à la guerre, comme l'explique cet instructeur interrogé par un média suisse.
Nous avons une menace d'invasion. Les gens dans les grandes villes se sont habitués au fait que le conflit était loin d'eux, à 750 km de Kiev. Mais ils réalisent maintenant que la guerre pourrait venir à eux et qu'ils ne sont pas prêts.
Les Européens sont-ils eux aussi prêts à faire la guerre pour l'Ukraine? Si la question ne se pose pas pour l'instant, il faudrait y répondre. Savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur ce que nous sommes.
Mais justement,
Gilles Gressani,
qu'est-ce que c'est que vivre en paix? Dans un magnifique discours du très grand écrivain américain David Foster Wallace, raconte l'histoire de deux jeunes poissons qui nagent et croisent le chemin d'un poisson plus âgé qui leur fait signe de la tête et leur dit « Salut les garçons, l'eau est bonne ». Alors les deux jeunes poissons nagent encore un moment, puis l'un regarde l'autre et fait « Tu sais ce que c'est, toi, l'eau ?» Au fond, je me demande si le problème que nous avons, évidemment, c'est une séquence diplomatique qui demande effectivement une action directe de l'État et des chefs d'État. Mais plus profondément, au fond, est-ce que cette séquence et les spectres de la guerre qui réémergent ne nous interrogent pas, au fond, sur cette eau qui, pour nous, était une banalité, pour une partie de nous, Européens, vivre en paix? Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui, vivre en paix?
Oui, c'est ce que les Européens ont oublié, au fond, la nature de la paix. Ils le prennent comme une donnée. Ils sont, comme vous dites, ils sont comme le poisson dans l'eau, donc ils ne savent pas ce que c'est que l'eau. Et il faut qu'ils la redécouvrent, cette eau. Ils la redécouvrent quand ils sont sur l'étal du poissonnier privé d'eau. C'est ça le risque et en même temps l'opportunité de la situation actuelle. Je crois que ça oblige les Européens à penser ensemble ce qui a de la valeur pour eux. Et cette question-là, c'est celle qui doit rassembler les Européens. Pas être contre les uns ou les autres, mais savoir qu'est-ce qui, entre les Européens, est un terrain commun qui leur permet d'exister ensemble. Et une grande crise comme celle qui se produit aujourd'hui pose cette question avec une acuité particulière.
Pierre Vimont, est-ce que c'est justement ça, cette question existentielle qui se pose aux Européens aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont prêts à aller faire la guerre pour l'Ukraine qui va les aider à sortir de la marginalisation dans ce dossier?
Oui, il y a dans ce que disaient à la fois Gilles et Jean-Marie Guénaud sur l'étal du poissonnier, il y a à la fois un paradoxe et une réalité, je dirais. Le paradoxe, c'est que on a tous pensé que après la fin de la guerre froide, on allait retrouver la paix. Et le paradoxe, c'est que au fond, en Europe, il n'y a pas eu réellement de conflit pendant toute la période de la guerre froide, parce que la dissuasion nucléaire faisait office de menace suffisamment forte pour que personne n'ait envie de tenter sa chance par rapport à cette dissuasion-là. Et paradoxalement, depuis la fin de la guerre froide, l'Europe a retrouvé des conflits. Il y a eu quand même le très très long conflit autour de l'ex-Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine, puis au Kosovo. Il y a eu le conflit de Géorgie en 2008, celui de l'Ukraine en 2014, qui malheureusement dure encore. Il y a eu encore l'année dernière le Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc le paradoxe, c'est que les Européens qui se croient en paix et qui pensent que leur continent est en paix ne l'est pas tant que cela en réalité. Et la réalité, c'est peut-être, et je reviens là aussi sur beaucoup de ce qui a été écrit dans Le Grand Continent ou même a été dit très bien et écrit très bien par Jean-Marie Guénaud, c'est que la frontière entre la guerre et la paix est devenue une frontière difficile à lire, très vague, très imprécise. On fait la guerre avec des moyens cyber, de la désinformation. Maintenant, on déstabilise l'adversaire par toutes sortes de moyens. Et regardez, par exemple, la crise actuelle entre l'Ukraine et la Russie. Beaucoup craignent une intervention directe de la Russie sur le territoire ukrainien, mais beaucoup pensent également que la Russie aura peut-être recours à d'autres moyens, y compris tout simplement essayer de faire tomber le gouvernement actuel à Kiev. Donc c'est par rapport à cette réalité-là aussi que les Européens au sein de l'Union européenne s'interrogent un peu et se demandent quelle est la réalité aujourd'hui de la guerre et de la paix. Juste un point souligné d'ailleurs par Jean-Marie, que je trouve très très juste, c'est toujours dans les crises que l'Europe se retrouve. On l'a vu encore tout récemment avec la pandémie. L'Europe démarre mal dans les crises. Elle est surprise, elle se comporte avec difficulté, les États membres partent dans tous les sens, et puis peu à peu elle trouve une ligne de conduite, elle trouve un cap, et on l'a vu avec le vaccin, on l'a vu avec la riposte à la pandémie, tout ça c'est plutôt bien organisé. Je trouve que sur l'Ukraine, nous assistons un peu à la même chose. Peu à peu, les Européens sont en train de faire leur unité, de trouver une manière de travailler ensemble, et il faut espérer que cela va durer.
Jean-Marie Guénaud, est-ce qu'on n'est pas encore en train de vivre aujourd'hui, 30 ans après l'effondrement de l'Union soviétique? Je m'explique, est-ce que, bien sûr, c'était il y a 30 ans, cet effondrement de l'URSS, mais aujourd'hui, les générations qui ont vécu sous l'URSS sont vieillissantes, et en Ukraine notamment, on voit apparaître une société civile qui est plus jeune, qui a véritablement les yeux tournés vers l'Europe, vers Prague, vers Varsovie, et qui prend une trajectoire véritablement divergente de celle de la Russie, tandis que du côté de Moscou, on voit toujours cet attachement très fort à l'Ukraine.
Oui, et là, je crois que les actions russes sont pour beaucoup dans cette évolution de l'Ukraine. Il y avait une identité ukrainienne, mais il y avait beaucoup d'Ukrainiens qui, jusqu'à il y a peu, au fond, ne voulaient pas choisir entre l'Est et l'Ouest. Il y a eu beaucoup de mariages entre Russes et Ukrainiens dans l'ancienne Union soviétique. Mais avec la manière dont la Russie, depuis 2014 en particulier, a pris l'Ukraine, le pourcentage des Ukrainiens qui sont sur cette ligne-là est de plus en plus réduit. Et effectivement, comme vous le dites, les Ukrainiens se tournent vers l'Union européenne, vers l'Europe occidentale, où ils voient un modèle à la fois de richesse et de liberté. Je crois que là, il y a une question fondamentale, c'est que la vraie compétition, elle se joue au fond sur la solidité interne des sociétés. Ce que disait il y a un instant Pierre Vimont, est-ce que la bataille sur l'Ukraine va se jouer entre des chars ? J'espère bien que non, parce que ça, c'est catastrophique en pertes humaines, en souffrances. Il est beaucoup plus probable qu'elle va se jouer sur la solidité d'une société à tenir contre toutes les manipulations internes et contre ses propres divisions et contre ses propres maux. Et c'est aujourd'hui sur ces questions-là que de plus en plus le combat se joue entre les pays. C'est nos fragilités internes qui jouent et nos forces intérieures beaucoup plus que les affrontements militaires.
On va tout de même parler de ces affrontements militaires. Si les diplomates s'activent pour éviter la guerre, les efforts des armées se poursuivent. L'Europe face au spectre de la guerre avec Pierre Vimont et Jean-Marie Guéhenneau, Carrefour de l'Europe en partenariat avec le Grand Continent. Alors il y a ces mouvements de troupes russes en Biélorussie à l'occasion de grandes manœuvres militaires. En parallèle, c'était cette semaine le 5e anniversaire de la présence avancée renforcée déployée par l'OTAN dans les États baltes et en Pologne, en réponse à l'annexion de la Crimée par la Russie. Une présence militaire qui s'accentue encore dans la région, c'est un reportage de notre correspondante dans les pays baltes, Marielle Vituro.
Au loin, sur la base de Zoknei, dans le nord de la Lituanie, les F-16 danois se préparent. La semaine dernière, les avions de chasse ont décollé une fois pour une mission de vérification. Un avion circulait incognito au-dessus de la mer Baltique. Quand Vilnius a demandé à ses alliés de renforcer leur présence pour plus de dissuasion, Copenhague a répondu « présent », le ministre danois des Affaires étrangères.
Nous avons contribué avec 4 F-16 et nous sommes satisfaits de pouvoir renforcer la sécurité qui nous lie au sein de l'OTAN. La période est sans aucun doute préoccupante. Nous constatons que des pays qui veulent prendre leurs propres décisions concernant leur sécurité, on le leur interdit.
Les Danois ont également envoyé une frégate et 160 marins en mer Baltique. Et depuis 5 ans, un bataillon de l'OTAN d'environ 1 millier de soldats, dirigé par l'Allemagne, est stationné en Lituanie. Pour le président lituanien Gitanas Nausėda, le message envoyé par les Danois est clair.
Ces avions ne sont pas là pour combattre, mais bien pour dissuader. Plus notre message et celui de l'OTAN sera clair, plus nos actes seront déterminés, plus nous aurons la paix, et il est très important que les pays à l'origine des tensions les reçoivent.
Néanmoins, la situation demeure préoccupante car la Russie masse des troupes importantes le long de la frontière ukrainienne, en Russie mais aussi en Biélorussie. Rob Bauer est à la tête du comité militaire de l'OTAN, l'une des plus hautes instances de l'Alliance.
Nous estimons qu'il y a environ 30 000 soldats déployés en Biélorussie par les Russes en accord avec les autorités. La situation est préoccupante. À cette heure, nous ne nous attendons pas à une attaque de la Russie contre l'OTAN, que ce soit directement ou via la Biélorussie.
Pour autant, le ministre de la Défense, Arvydas Anušauskas, est formel. La donne a changé.
La Russie a installé un nombre considérable de troupes en Biélorussie. Il s'agit de facto d'une occupation militaire du pays. Au vu de ces changements, la situation sécuritaire dans la région en est modifiée. Pour la Lituanie, ça signifie qu'il faudra prendre à court terme des décisions pour renforcer nos capacités militaires.
Le secteur de la défense est déjà en ébullition en Lituanie. Après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, la Lituanie avait réintroduit le service militaire. Elle réfléchit désormais à le rendre obligatoire pour tous. Depuis quelques années, la Lituanie s'est engagée dans une politique d'acquisition. Elle a récemment testé pour la première fois un système de missiles anti-chars de fabrication israélienne. Et le pays développe aussi des stratégies pour intégrer la société civile dans son système de défense.
Alors vous l'avez dit, Pierre Vimont, Jean-Marie Guéhenno, la crise réveille l'Europe, mais elle pose aussi la question de l'OTAN, de la défense européenne. Pierre Vimont.
D'abord, il faut quand même rappeler quelques faits et notamment que l'Ukraine, pour le moment, n'est pas membre de l'OTAN. Donc, le fameux article 5 qui prévoit que la solidarité entre les États membres de l'OTAN et que, en cas d'agression contre l'un d'entre eux, les autres se portent à son secours, cet article 5 ne s'applique pas dans le cas de l'Ukraine. Il demeure néanmoins que, comme d'ailleurs tous les autres pays du continent européen et la Russie également, nous avons tous signé dès 1975 dans les accords d'Helsinki autour d'un certain nombre de principes dont celui de respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale des nations européennes. Et donc à l'évidence, en tout cas en 2014 c'était très clair, cela n'a pas été respecté pour l'Ukraine, avec l'annexion de la Crimée et l'occupation de l'Est du pays. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la menace aux frontières de l'Ukraine, quand bien même les autorités russes nous expliquent que ce renforcement militaire s'effectue sur le territoire russe, comme le disait très bien Jean-Marie Guéhenno, c'est quand même préoccupant et inquiétant. Et il y a toutes les raisons pour les responsables à Kiev d'être inquiets. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Je crois qu'on fait exactement ce qui est en train de se passer dans les différentes capitales européennes et y compris à Washington. C'est-à-dire que d'une part, on fait preuve de fermeté, on prend les mesures qui s'imposent pour essayer de dissuader les Russes de poursuivre cette escalade, que ce soit des mesures militaires ou la préparation de mesures économiques et de sanctions éventuellement. Et par ailleurs, on essaie d'engager un processus diplomatique avec les autorités russes pour essayer d'obtenir la baisse de la tension, la baisse de la pression actuelle et un début de désescalade. Et c'est donc sur ces deux registres qu'on essaye de jouer à l'heure actuelle. Ce qui me frappe aussi, si je peux me permettre juste de poser cette idée sur la table, c'est que avec les années qui ont passé, comme vous le soulignez depuis le début de l'émission, les peuples ont perdu la connaissance de ce qu'était la guerre et pensent que la paix est une espèce de paix perpétuelle. Aujourd'hui, il me semble qu'avec cet état d'esprit, on a aussi un peu perdu la grammaire de la diplomatie. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron se rend à Moscou pour essayer d'entamer un dialogue, la réaction que j'entends chez beaucoup de mes interlocuteurs à l'heure actuelle, c'est pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il parle aux autorités russes? Il faudrait uniquement brandir la menace de sanctions économiques et financières et d'autre part de faire monter la mobilisation militaire de notre côté. Et donc je trouve que ce qu'on savait faire il y a encore quelques années, qui était de prendre des initiatives, de se montrer actif et agile sur le terrain diplomatique, parce que cela va de pair avec toute menace militaire qui apparaît ici ou là en Europe, on a l'impression que cette habitude-là, ces pratiques-là de la diplomatie se sont un peu perdues et que on l'a encore vu, je dois dire, j'ai été témoin moi-même en Europe, que quand on veut répondre à la Russie, la seule réponse qu'on trouve, ce sont des sanctions, c'est le refus de tout dialogue, c'est-à-dire la fermeté, la première jambe dont je parlais tout à l'heure. En revanche, la recherche de la discussion, de canaux de dialogue, de communication et d'information, ça c'est devenu beaucoup plus compliqué et je trouve que c'est un peu préoccupant, je dois dire.
Jean-Marie Guéhenno, vous qui avez longtemps été chargé des opérations de maintien de la paix pour l'ONU, est-ce que vous avez ce sentiment aussi d'une perte de la grammaire diplomatique au niveau européen ?
Tout à fait, la paix elle est la plupart du temps fondée sur des compromis et la diplomatie, ça consiste à explorer où les compromis sont possibles. Moi, je suis frappé dans la situation actuelle par le fait que c'est non seulement l'acte d'Helsinki qui risque d'être violé, mais c'est aussi même la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies, elle prévoit non seulement que l'usage de la force, mais que la menace de l'usage de la force est une violation de la Charte. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en jeu. Alors, comment sortir de cela? À mon avis, comme le dit très bien Pierre Vimont, par la discussion, par la négociation, pour essayer de comprendre où sont les lignes rouges des uns et des autres, pour essayer de voir comment on peut bâtir, sinon une architecture de sécurité, comme on dit dans le jargon des diplomates. Et là, moi, je suis un peu sceptique sur la possibilité de bâtir une véritable architecture de sécurité européenne aujourd'hui, parce que, comme je l'ai dit plus tôt dans cet entretien, je ne crois pas qu'il y ait une vraie compatibilité entre la vision de Vladimir Poutine, qui au fond voudrait distendre les liens entre l'Europe et les États-Unis et distendre les liens entre les Européens eux-mêmes, et notre vision, qui est attachée à une relation d'alliance avec les États-Unis et à la consolidation de l'Union européenne. Donc je crois qu'il y a une vraie différence fondamentale de perspective sur ce que pourrait être une architecture européenne. Mais je pense que ça n'exclut pas d'avoir des accords sur des règles de conduite et sur des mesures vérifiables pour que les troupes ne soient pas déployées dans certaines zones, au-dessus de certains nombres, pour qu'en matière de déploiement d'équipements divers, il y ait aussi des limites. C'est ce qui avait été tenté au début de l'après-guerre froide, quand on a élaboré ce qu'on a appelé à l'époque le document de Vienne, qui se voulait une adaptation du traité sur les forces conventionnelles en Europe. Il faut réfléchir à des manières de faire revivre ce type de cadre qui donne un peu de prévisibilité, de stabilité aux relations internationales.
Et de fait,
Gilles Gressani,
je serais assez intéressé par avoir votre réaction un peu le paradoxe de la séquence qui vient de s'achever avec ce voyage en plusieurs étapes préparé en amont par le président de la République française. Le paradoxe, c'est qu'il y a une vigueur de la réaction, notamment outre-Atlantique, qui peut étonner. Et au fond, on peut se poser une question face à, de l'autre côté, disons, la mise en scène, peut-être d'ailleurs exagérée, de l'unité entre la Chine et la Russie. Au fond, cette espèce de mise en scène qui a suivi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On a d'un côté un monde qui essaye de s'afficher comme une perspective de développement post-occidental dans la nouvelle grande rivalité structurante du monde entre la Chine et les États-Unis. Et de l'autre côté, justement, on a l'impression que toute tentative d'autonomie stratégique ou d'autonomie d'analyse, même si elle est concertée et développée d'une façon, disons, convergente avec l'allié atlantique, pose question. Et donc, au fond, là, on peut s'interroger. Je pense que vous êtes tous les deux à New York en ce moment, donc vous êtes vraiment tout à fait en prise avec ce qui s'y dit. Comment on peut expliquer ce paradoxe ?
Jean-Marie Guéhenneau, pour commencer, Pierre Vimont peut-être ensuite.
Je crois qu'aux États-Unis, c'est dans les gènes des États-Unis, du système politique américain, il y a un mot qui revient toujours, c'est leadership. Je crois que c'est très difficile pour les États-Unis de s'imaginer autrement qu'en leader du monde libre. Et donc, tout en consultant les Européens d'une façon beaucoup plus efficace qu'ils ne l'ont fait, par exemple, au moment du départ d'Afghanistan ou bien de l'accord dit AUKUS. Là, il y a un effort de l'administration Biden pour être auprès des Européens et pour ne pas les prendre par surprise. Tout en ayant cette attitude, il y a toujours une sorte d'agacement, surtout dans les milieux des think tanks, pour toute, au fond, initiative qui n'est pas strictement contrôlée par les États-Unis. Ça, je crois que c'est une vraie tendance.
Pierre Vimont.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Marie Guéhenneau, c'est-à-dire qu'il y a naturellement chez les Américains cette idée de leadership et de voir tout d'un coup certains dirigeants européens voler de leurs propres ailes et essayer d'apporter leur contribution et de créer un canal de médiation, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Bien évidemment, ils sont un peu surpris et dans l'opinion publique et chez les observateurs américains, on note cet état d'esprit. En même temps, me semble-t-il, si les Européens arrivent à montrer qu'ils sont capables sur ce dossier d'apporter une contribution utile et d'aboutir à l'arrêt de l'escalade et peut-être même éventuellement à un début de baisse de tension, alors peut-être qu'ils regarderont les Européens d'un œil un petit peu différent, parce que ce qui m'a toujours frappé dans l'attitude américaine, notamment lors de, des 8 ans de l'administration Obama sur plusieurs sujets, notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les Américains, à l'époque, étaient assez prêts à laisser les Européens en première ligne. Et c'est parce qu'en réalité, les Européens n'ont pas su apporter des résultats concrets et trouver des solutions à ce qu'on appelait alors le printemps arabe, en Libye, en Tunisie. Alors les Américains ont été obligés de revenir dans le jeu. Et ce reproche souvent fait aux Européens d'être inefficaces et d'être une machine un peu lourde qui n'arrive pas à produire des résultats, notamment diplomatiques, est encore là sur l'affaire ukrainienne. Et donc c'est à nous de faire la preuve qu'on est capable aussi d'apporter une contribution utile dans cette crise dangereuse.
Dogs of War, Blues Saraceno dans Carrefour de l'Europe sur RFI avec Pierre Vimon et Jean-Marie Guéhenno pour parler de l'Europe face au spectre de la guerre. Une émission en partenariat avec le Grand Continent. La crise entre Occidentaux et Russes se joue parfois sur un territoire bien éloigné de l'Europe. Nous allons sur le continent africain retrouver Florence Maurice, chef du bureau de RFI à Nairobi. Florence, vous étiez envoyée spéciale à Bangui pour RFI entre décembre 2020 et avril 2021, la période où la présence des hommes de Wagner s'est généralisée en Centrafrique.
Tout commence en Centrafrique il y a 4 ans, après le retrait précipité de la mission française Sangaris. Les groupes armés contrôlent encore 80% du pays. Le président Touadéra cherche à rééquiper son armée, laminée par des années de guerre civile, et se tourne vers la Russie, dont plusieurs entreprises obtiennent au même moment de juteux contrats miniers. Et puis il y a le basculement en décembre 2020, à la veille de la présidentielle. Les rebelles menacent de fondre sur Bangui et Wagner envoie des renforts, plusieurs centaines d'hommes qui montent au front pour sauver le président Touadéra, au prix cependant de nombreuses exactions, viols, arrestations ciblées et autres exécutions extrajudiciaires.
Et pourtant, les hommes de Wagner, Florence, bénéficient du soutien de la population.
Difficile de distinguer ce qui relève du soutien spontané de la propagande russe extrêmement active à Bangui. Mais une chose est sûre, il y a ce sentiment chez les Centrafricains que les partenaires traditionnels de leur pays, que sont la France et les Nations Unies, ont échoué à ramener la sécurité dans le pays, au point que toute critique sur les méthodes russes est immédiatement déformée, comme l'expression d'un dépit de la France devant l'influence croissante de la Russie. Le divorce entre Paris et Bangui est tel que la France, qui paradoxalement reste le principal bailleur du pays, finit par suspendre sa coopération en mai 2021.
Et quelques mois plus tard, Florence, le Mali bascule à son tour.
L'annonce du retrait progressif de Barkhane cet été a d'ailleurs surpris les connaisseurs de la Centrafrique, qui n'ont pas manqué de faire le parallèle avec le départ de Sangaris, qui a ouvert la voie à l'arrivée des Russes en RCA et reste un traumatisme au sein de l'armée française. La suite leur donne raison, puisque 6 mois plus tard, les mercenaires russes seraient désormais entre 300 et 350 au Mali et progresseraient jusque dans le centre et le nord du pays actuellement, ce qui est problématique pour Paris militairement. Comment l'armée française peut-elle continuer à accompagner l'armée malienne au combat dans ce contexte, mais aussi politiquement, puisque, à la différence de Paris, les Russes, eux, ne demandent aucune contrepartie politique ou démocratique en échange de leurs services et se présentent volontiers comme un allié des peuples dans leur quête d'indépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale.
Et on l'a vu encore lors du renversement de Roch-Marc Christian Kabore à Ouagadougou. Est-ce que le Burkina Faso est le prochain sur la liste?
Difficile à dire, hein, mais en effet, dès le lendemain du putsch, l'homme d'affaires Evgeny Prigojine, soupçonné d'être derrière le groupe Wagner, a salué, je cite, « une nouvelle ère de la décolonisation en Afrique ». Dans la foulée, Alexandre Ivanov, connu pour être l'un des représentants des instructeurs russes en Centrafrique, a carrément fait une offre de service direct, en se disant prêt dans un communiqué à partager l'expérience de ces hommes pour la formation de l'armée du Burkina Faso, si les autorités le demandaient, fustigeant au passage l'inefficacité française. On voit bien que pour Moscou, hein, l'objectif n'est pas seulement de supplanter militairement la France ou de mettre la main sur des ressources, mais également à travers sa propagande bien rodée, d'attaquer l'image de la puissance française sur le continent.
Pierre Vimont, cette présence des Russes sur le continent africain dans des pays qui ont longtemps été considérés comme faisant partie du précaré français, c'est particulièrement difficile pour Paris.
Oui, c'est difficile pour Paris. Vous savez, quand nous avons engagé la demande du président de la République en 2019, ce nouveau dialogue de confiance et de sécurité avec la Russie, comme on dit, lors de l'une des premières réunions qui s'était tenue à Moscou entre les quatre ministres des Affaires étrangères et de la Défense de la Russie et de la France, la partie française avait souligné que la situation en République centrafricaine et la désinformation pratiquée par le groupe Wagner contre la France serait un test pour ce dialogue que nous voulions réengager avec la Russie. On a vu le résultat 2 ans après. Rien n'a changé en République centrafricaine et maintenant nous voyons les mercenaires Wagner arriver au Mali. Donc oui, il y a une vraie divergence. Je note d'ailleurs que le président a préféré, lorsqu'il est allé à Moscou, ne pas en parler publiquement pour ne pas compliquer les choses, je dirais, mais le problème reste entier. Ce que je crois qu'il faut prendre en compte dans ce dossier, sur cette affaire, c'est que, comme souvent, la Russie tire parti des vulnérabilités des autres. Et qu'on voit bien que depuis un certain nombre d'années en Afrique, la France, ancienne puissance coloniale, voit son rôle contesté et doit trouver les moyens, je dirais, de retrouver son crédit et son autorité en Afrique. Et faute de l'avoir trouvé aujourd'hui, en tout cas pour le moment, on le voit bien au Mali, en République centrafricaine, eh bien on voit les Russes tirer parti de ses faiblesses et de ses difficultés. C'est malheureusement l'attitude habituelle que l'on voit du côté russe, comme le disait tout à l'heure Jean-Marie Guénaud, une politique de puissance, une politique de force, une politique qui est tout à fait contraire à l'approche des Occidentaux sur le respect de la règle de droit, sur le respect des principes et des valeurs de du multilatéralisme. Et donc on voit bien que par rapport à ça, il faut que l'on trouve la bonne manière de répondre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, au Mali comme en République centrafricaine, c'est ce que doit trouver la France et ce qu'elle recherche pour le moment. Mais il faut prendre le problème vraiment dans son ensemble, plutôt que de se fixer uniquement sur le cas des Wagner, quoi qu'on pense par ailleurs de leur attitude et de leur comportement.
Jean-Marie Guénaud, Pierre Vimont parlait des valeurs. Est-ce que pour les populations civiles en Centrafrique ou au Mali, où tout a échoué pour rétablir la paix, la France, comme l'ONU, je pense au cas centrafricain, est-ce que finalement les hommes de Wagner ne jouent pas sur du velours ?
Temporairement, oui, mais le fond de la question dans tous ces pays où on n'a pas trouvé la bonne formule pour les stabiliser, le fond de la question, c'est quand même un minimum de services publics, une vie paisible, mais pas une vie simplement dont la paix est assurée par quelques miliciens ou milices privées. Ce qu'ils veulent, c'est des écoles, c'est des dispensaires, c'est une présence de l'État et une présence légitime de l'État. Donc je crois que ce qu'on a vu après 2 décennies d'intervention, quand on prend l'Afrique dans son ensemble, ce qu'on a vu, c'est un échec et de l'ONU et des efforts nationaux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'États restent fragiles. Je pense qu'il faut une présence beaucoup plus limitée, beaucoup plus discrète, mais qu'en fin de compte, une vision purement sécuritaire, comme est celle du groupe Wagner, ne réussira pas. Ce qui est nécessaire, c'est un engagement beaucoup plus large, mais en même temps moins visible. Il faut laisser les pays être au premier rang. Et de ce point de vue, je suis assez inquiet de voir cette épidémie de coups d'État qui ne correspond pas du tout, à mon avis, à ce que souhaite la majorité des Africains aujourd'hui. Je pense que de ce point de vue, il ne faut pas s'imaginer que ce qu'on voit en ce moment, c'est ce qui va se passer dans les années qui viennent.
Retournons en Europe. Est-ce que les jeunes générations européennes vont voir le retour de la conscription, du service militaire obligatoire? On retrouve Alice Roujat pour la chronique C'est mon Europe. Bonjour Alice.
Bonjour.
Vous nous parlez de ces jeunes qui s'engagent dans les corps armés. À l'inverse de la France, qui a supprimé son service militaire obligatoire en 2001, plusieurs pays imposent encore à leurs jeunes une période d'engagement.
Eh oui, si je fais partie de cette génération de jeunes Français qui n'ont connu le service militaire qu'à travers le récit de leur père ou grand-père, ce n'est effectivement pas le cas de tous les Européens. En Grèce, par exemple, à partir de 18 ans, tous les jeunes hommes sont appelés à servir leur pays pendant 9 mois, idem en Finlande.
C'est assez étonnant venant de vous, qui êtes tellement soucieuse de parité d'habitude. Alice, vous ne parlez que des jeunes hommes.
Et oui, je mentionne le genre parce que globalement, l'armée est encore bien loin de la parité. Partout où ce service est obligatoire, les femmes ne peuvent rejoindre l'armée que sur la base du volontariat. Un pays fait exception, on ne devrait plus s'en étonner, c'est la Norvège. Depuis 2016, les femmes font partie des près de 10 000 jeunes appelés à servir leur pays. Et si faire son service militaire n'implique pas de faire carrière dans l'armée ensuite, eh bien, la Norvège est tout de même la première armée européenne la plus féminisée, avec 30% de femmes dans ses rangs.
Donc, l'armée continue de séduire?
Eh bien, oui, si ce n'est plus aujourd'hui. Depuis les années 2010, il y a un véritable regain d'intérêt pour la vie de soldats. 59% des Autrichiens et 65% des Belges se disent justement favorables au rétablissement d'un service militaire obligatoire. Pour le comprendre, il faut faire un petit bond dans le passé. Dans les années 1990, l'Europe a traversé ce qu'on a appelé une crise de la conscription. En Allemagne ou en Italie, les jeunes préféraient faire des études et voyaient le service militaire comme une obligation qui retarderait leur carrière. La grande majorité se disait aussi antimilitariste. 20 ans plus tard, le discours a changé, notamment en raison du contexte économique et social. Avoir 20 ans en 2022, c'est avoir conscience qu'on gagnera sûrement moins que nos parents et que, malgré les diplômes, accéder à l'emploi et trouver une place dans la société seront des tâches ardues. Du coup, intégrer l'armée, ça donne du sens. Ça permet de se dire qu'on va servir à quelque chose et c'est l'argument principal des jeunes Français qui s'enrôlent, par exemple.
Est-ce que la menace du terrorisme joue dans ce nouvel engouement?
Eh bien, tout à fait. En novembre 2015, par exemple, après la série d'attentats dont la France est victime, le nombre de jeunes qui voulaient s'engager a été multiplié par 4. Et cette tendance est encore plus marquée dans les pays qui se sentent menacés par un possible conflit, comme la Lituanie, où le service militaire, abrogé en 2008, a été remis en place en 2015, juste un an après l'annexion de la Crimée par la Russie. En Estonie, de plus en plus de jeunes, et notamment des femmes, participent aussi à des camps paramilitaires. Alors, c'est pas l'armée, on n'y apprend pas le métier de soldat, mais c'est quand même dispensé par les officiers de la défense. Un peu comme chez les scouts, on y apprend à se débrouiller dans un environnement hostile, comme la nuit, en forêt. Il existe 8000 camps de ce genre dans le pays.
Et dans ce contexte émerge depuis quelques années, Alice, l'idée d'un service militaire européen.
Oui, l'idée est régulièrement remise sur la table. Mais dans les faits, ça semble encore très compliqué à mettre en place, ne serait-ce que parce que le budget de l'Union européenne ne prévoit pas de part à la défense, comme chaque État est souverain.
Alors on l'a entendu, les citoyens de plusieurs pays européens qui apprennent à se défendre, et puis en parallèle, cette idée d'une défense européenne qui revient. Jean-Marie Guénon, on l'a un petit peu effleuré au cours de cet entretien. C'est une idée à laquelle vous ne croyez pas complètement, en tout cas pas comme ça.
Non, d'abord parce que je crois que les militaires, quand on parle de service militaire, vous diront tous que du point de vue de l'efficacité militaire, le service militaire, les appeler, ça n'est pas utile. C'est une complication à l'heure de la haute technologie où il faut des professionnels très formés. En même temps, et c'est là que les choses se compliquent, c'est vrai qu'on a besoin de resserrer les liens entre les composantes d'une nation et les composantes de l'Europe. On voit bien qu'une des difficultés qu'on a évoquées dans cette émission, c'est la distance entre les Européens et leur défense. Le sentiment qu'effectivement, ils sont des poissons dans l'eau et ils ne comprennent pas ce que c'est que l'eau. Et ils n'ont pas la cohérence nécessaire. Et que la bataille se joue beaucoup plus sur la cohésion des sociétés que sur toute autre chose. Et donc, de ce point de vue, si on pouvait trouver une formule qui permet de brasser autant au niveau des nations qu'au niveau de l'Europe entière, les jeunes Européens, je crois que ça serait une bonne chose, mais ça me paraît assez peu pratique parce qu'au niveau européen, il y a des mémoires qui ne sont pas les mêmes et donc on aura quelque chose d'assez abstrait. On devrait commencer au niveau national.
Pierre Vimont, vous auriez, vous, une formule à proposer, une formule magique ?
Non, je partage entièrement le point de vue de Jean-Marie. Je crois qu'il faudrait d'abord commencer au niveau national. Les États membres, les États-nations représentent encore une vraie réalité politique et sociale. Et donc je pense qu'il faudrait commencer par là. Ce que je crois en revanche qui serait utile, et c'est tout le travail qui est mené actuellement dans le cadre de ce que l'on appelle la boussole stratégique, qui sera un document qui pourrait être adopté avant la fin mars par les États membres de l'Union européenne, c'est de travailler ensemble entre les 27 États pour avoir une même culture stratégique, c'est-à-dire avoir une même vision de ce que doit être notre politique étrangère, notre politique de sécurité, être d'accord sur quelles sont les menaces les plus importantes pour l'Europe et être capable, quand on parle de stratégie, de géopolitique, comme on dit aujourd'hui, être capable tous ensemble d'avoir une approche qui nous soit commune. Et ça, c'est le travail, à mon avis, le plus important à l'heure actuelle pour parvenir à ce qui pourra être une politique de sécurité européenne.
Gilles Gressani.
Ben, je ne pourrais qu'être plus en accord avec cela. De fait, je crois que l'effort fondamental qu'il faut qu'on essaye de mener, et je prêche un peu pour ma paroisse, vous m'excuserez de cela, c'est que de fait, on doit aujourd'hui essayer de construire un débat stratégique, politique, intellectuel à l'échelle du continent. Cela passe évidemment par des initiatives multiples qui sont institutionnelles, le rôle évident des États. Ça passe aussi, au fond, par des éléments qui sont par nature plus transnationaux, les universités, les centres de recherche de savoir, évidemment aussi les centres de décision, et plus généralement, au fond, créer un écosystème qui puisse permettre d'avoir en simultané un débat sur des questions de fond et structurantes qui ne se posent pas simplement dans le petit monde parisien, au petit monde français, des petites polémiques au jour le jour, mais qui essayent de faire face, au fond, aux grandes transformations qui nous attendent. C'est aujourd'hui une priorité totale si on veut essayer de relancer et avoir un avenir.
C'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Marie Guéhenno, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de maintien de la paix, et à l'ambassadeur de France, Pierre Vimont, expert au Centre de réflexion Carnegie Europe. Merci à vous, Gilles Gressani, fondateur du Grand Continent, revue de débat européen qui a plein de projets en préparation. On va en reparler, mais dès le 27 mars, en partenariat avec le Grand Continent, nous vous retrouverons pour une série de podcasts autour du Grand Continent.
Tout à fait. Ben, nous sommes ravis de cela. Le Grand Continent est une revue du 21e siècle, donc elle est évidemment conçue pour fonctionner en ligne, c'est une revue digitale. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est articuler le temps du tweet, donc le temps de la polémique, le temps du monde, des choses, des transformations et des crises, avec le temps du livre, avec le temps de la réflexion, du débat long, des idées qui infusent lentement.
À la réalisation de Carrefour de l'Europe, Ludivine Amado, le podcast de Carrefour de l'Europe est disponible sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez bien sûr vous abonner. La semaine prochaine, vous retrouvez Léa Lisa Westerhoff.
Bonjour, c'est Juan Gomez.